Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. No.
Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, quand j'allais voir une expo, on me regardait, enfin, genre pourquoi t'es là en fait. Je me souviendrai toujours de ce un vigile voilà, qui travaille à Beauvau. Je rentrais au musée, par l'entrée du musée, et il me dit « Ah, mais l'entrée de la bibliothèque, c'est de l'autre côté. » Et je lui dis « Mais en fait, je vais voir une exposition. Enfin, je sais pas, j'ai ma carte d'adhérente, je vais voir une expo. » Il a fait « Ah d'accord, je suis désolée, allez-y. » Et tu vois, c'est avec des petits trucs comme ça, tu te dis « Mais pourquoi en fait, je serais pas légitime ?» De toutes les façons, je savais que je voulais être dans le domaine culturel artistique. Mais je me suis pas dit oh « En tant que femme noire, française, comment ça va se passer dans ce milieu ? »
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Virginie, je suis née dans le 14e et j'ai grandi dans le 14e.
Et est-ce que tu peux me parler de ton enfance ?
Ça a été une enfance assez calme en fait au bout du compte. À part que ouais, quand j'étais petite, en fait, je recevais pas mal d'insultes, moqueries par rapport à ma couleur, en fait. Et aussi, quand j'étais petite, j'avais les cheveux courts. Donc, on me prenait beaucoup pour un petit garçon. Et on va dire que ouais, c'est plus ce genre de choses qui m'ont marqué et qui m'ont fait comprendre, bah, dès petite, que ouais, j'avais une certaine différence. Même si j'avais des copines qui étaient noires, métisses, ouais, j'ai pris conscience que ouais, j'étais noire à ce moment-là. Et je me souviens même, une fois, j'avais demandé à ma grande sœur. Je lui avais dit, mais quand est-ce que je vais devenir blanche et que j'aurai des cheveux longs et blonds ? Et elle était complètement choquée, elle m'a regardée, elle m'a fait, ben non, tu vas rester noire toute ta vie, en fait. Et après, j'ai pleuré, mais du coup, c'est plus les insultes des autres enfants, même aussi de la famille. Hein. C'est plus ça qui m'ont fait comprendre que ouais, bah, j'étais entre guillemets différente et que j'étais pas dans le même cadre que les autres enfants, on va dire.
Vous aviez des couleurs de peau différentes dans ta famille ?
Entre guillemets, je suis la plus foncée de mes sœurs et tout. Quoi. Mais après, je me suis pas sentie différente de mes sœurs, en fait, au bout du compte. C'était plus des critiques, justement, de... Même de membres de ma famille. Genre, ah oui, tes sœurs, elles sont plus claires de peau et tout... Il n'y a que toi qui es noire, des trucs comme ça.
Et en fait, comment toi tu le prenais à... Est-ce que tu t'en souviens de ça ?
D'Achille, que j'avais mes petites cousines, elles avaient des longs cheveux, on leur faisait des belles petites tresses et tout. Et moi, j'avais les cheveux coupés, rasés comme un petit garçon. Et c'est vrai que je me considérais un peu comme le petit canard, le vilain petit canard, en fait. Et ouais, on va pas forcément te donner beaucoup d'attention, t'es un peu de l'autre côté, enfin, dans ton coin. Mais j'ai pas souvenir de tristesse par rapport à ça. C'était plus, en gros, genre, je suis pas comme mes petites cousines, je suis pas comme les autres enfants. Puis après, aussi, moi, j'étais très bagarreuse. Donc, tous ceux qui me cherchaient des noises, bah, je me battais, bon, je les frappais.
Et est-ce que tes parents te disaient que t'étais belle ?
Petite, non, pas de la part de mes parents, beaucoup de la part de mes oncles et tout. Surtout, j'avais un oncle qui est décédé aujourd'hui et qui me disait souvent « la plus belle ». C'est vrai que les compliments positifs venaient beaucoup de lui.
Et au collège, comment ça se passe ?
Alors, au collège, je suis dans un collège en ZEP, des bonnes notes. Et après, à partir de la quatrième, ouais, beaucoup de problèmes au niveau du comportement. Parce que je suis des personnes que les professeurs estiment de mauvaise fréquentation. Donc ça joue un peu, mais cependant je réussis à aller dans un bon lycée, le lycée Claude Monet, contre l'avis de certains professeurs hein, qui m'ont dit mais pourquoi tu mets ces lycées là, t'auras peu de chance d'y aller, choisis d'autres lycées, et finalement je les ai pas écoutés et je suis partie dans ce lycée là quoi. C'est les premiers genre petits copains, des histoires comme ça et tout. Pendant l'adolescence j'étais pas dans... Enfin c'était pas Hélène et les garçons quoi. ouais, j'étais en jogging requin tout le temps. Enfin, toujours le côté garçon manqué. Mais en même temps, voilà quoi, je vais faire attention à moi, je vais mettre du mascara. Je me souviens aussi de mon père qui me l'avait dit une fois, ouais, je te revois encore maquillée, tu vois. Arrête de te maquiller et tout, tu mets pas de mascara, tu mets rien du tout, ça.
Et tu te maquillais parce que tu voulais plaire à quelqu'un ou c'était pour toi-même?
J'essayais comme les copines en fait. Et puis je prenais le maquillage de mes sœurs. Mais je me disais pas que je voulais plaire, c'était plus pour essayer. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube quoi. Où t'avais tous les tutos, faire du contouring, tout ça, même pour te coiffer. Et du coup, c'était un peu freestyle. Il y avait un magazine qui s'appelait Girls, où il y avait beaucoup de conseils pour les peaux noires. Et c'était la dermatologue Cady Cibizet qui les écrivait. Donc j'achetais Girls souvent. Je me disais, ah, il va y avoir des conseils pour les peaux noires et tout. Mais ouais, j'ai appris à prendre soin de moi avec les magazines en fait.
Et à cette époque-là, qui sont tes modèles?
Iman, parce qu'elle avait lancé sa gamme de produits capillaires. Mais sinon, c'est vrai que j'en avais pas vraiment par mes sœurs. Bah, je copiais sur elle. Hein. Franchement, maquillage, vêtements...
Et t'avais conscience d'être garçon manqué?
Carrément. Enfin, je me souviens, une fois, j'avais mis des... je sais pas si vous vous en souvenez, des no-box. Ça vous dit quelque chose? C'était un peu comme des Air Max qu'on pensait, en fait. Avec une grosse bulle et tout. Bon, moi, j'en avais en noir. Ça faisait comme des bottes, en fait. Et genre, j'en ai mis pour aller au collège. Et devant, tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Genre, du style Virginie, elle a mis des chaussures, genre... attention, c'est une femme, quoi.
Est-ce qu'il y avait des professeurs qui te faisaient sentir que l'école, c'était pas fait pour toi, malgré tes bonnes notes?
Au contraire, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont toujours poussé dans le bon sens du terme. Arrête de faire comme ta copine, enfin, travaille, sois sérieuse... Surtout une prof d'anglais que des fois je recroise en plus hein, dans les transports à Châtelet et tout. Et elle m'a toujours encouragée à être sérieuse et à ne pas faire comme les autres en fait. Et puis ceux qui me faisaient des remarques un peu bizarres, bon, je les écoutais pas quoi. Ouais, il y en a bien sûr, bah, justement cette prof qui m'avait dit pourquoi je choisis de bons lycées en gros.
Et donc t'arrives au lycée, tu choisis quelle filière, est-ce que tu te concertes avec tes parents?
Ah ouais, parce que à la base, moi, je voulais faire une filière STI à appliquer. Et je me souviendrai toujours, j'avais, tu sais, la brochure et tout que tu montres à tes parents pour choisir ton lycée. Et mon père m'a dit, ah non, franchement, tu vas pas, tu fais pas ça, ça va pas ou quoi? En fait, tu vas en général au lycée Montaigne et tu passes un bac S. Et après, tu passes ton concours administratif pour travailler dans les mairies. Enfin, je sais pas, j'avais 16 ans, j'ai regardé comme ça, j'ai fait ok. Enfin, moi ça me disait rien du tout. Et je l'ai écouté à moitié, hein. Je suis partie en ES à Claude Monet. ES avec option art plastique. Bah, le lycée, ouais, c'est un peu la désillusion par rapport à l'école, quoi. On va dire que dans le collège où j'étais, c'était très diversifié et tout, milieu populaire. Et au lycée, c'est un autre univers, quoi. Je suis l'une des... Je crois que j'étais la seule noire en seconde. Hein. Non, on était deux. Et ouais, je me renferme beaucoup plus sur moi-même. Enfin, mes cours, en fait, c'était à base de... je vais en cours. Je me mets pas trop au fond, mais pas trop devant non plus. J'écris, mais j'écris pas les cours, en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à écrire mes propres textes, etc. Les textes que j'écrivais, c'était plus... C'était comme des textes d'introspection, si je puis dire. Parce qu'en fait, j'avais un oncle qui était décédé quand j'avais 14 ans, donc quand j'étais en quatrième. Et finalement, même si je voulais pas beaucoup montrer mes émotions devant ma famille, devant mes sœurs, bah, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Son décès m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, en fait. Parce que c'était un peu... Ouais, c'était mon confident, c'était... Bah, c'était lui qui me disait « Ah, la plus belle », etc. Et c'est vrai que quand il est décédé, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, mais je me cachais derrière ce rempart de « Faut pas montrer ses émotions, faut pas montrer ce que tu ressens, faut pas parler de ta tristesse. » Donc j'ai mis tout ça sur papier, en fait. Et de fil en aiguille, tout ce qui allait m'arriver au quotidien, bah, j'allais écrire comme ça. Et c'est bizarre parce que j'avais toujours eu cette sensation, je sais pas comment expliquer, que je pouvais écrire de cette manière. Mais c'est comme si je me voilais la face. C'est comme si on a conscience qu'on peut faire quelque chose, mais on ne le fait pas, en fait. Parce que après, j'écrivais, enfin, avec une amie, on s'écrivait des lettres, genre, mais des trucs, des potins, quoi, des trucs comme ça. Mais l'écriture a toujours une grande place dans mon quotidien, en fait.
Est-ce que tu peux brosser le portrait un peu de ta famille?
Mon père, on va dire, c'est un homme, ambitieux, qui a peut-être mis certains rêves de côté pour justement être là aux besoins de sa famille. Parce que déjà, il avait l'ambition de partir, de venir à Paris. C'est ce qu'il est parvenu à faire ses études, s'installer, trouver un métier. Donc c'est une première ambition qu'il a concrétisée, on va dire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va aussi peut-être mettre justement certaines envies de côté pour respecter une bonne ligne de conduite, en fait. Pour être toujours là pour les siens, pour ses proches, pour ses amis. Qui va toujours être super serviable. Et ma mère aussi, c'est là où ils se rejoignent, très serviable, très à l'écoute des autres. Et qui parfois va même s'oublier elle-même. Et qui a mis certains rêves de côté. En fait, je me dis que mes parents, c'est des artistes, mais qu'ils ont mis beaucoup de choses de côté pour rester dans cette ligne de conduite et se protéger du quand dira-t-on, etc. Ce qui a beaucoup déteint sur moi, d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est beaucoup venu d'eux, cette espèce de coquille de protection. Et ma grande sœur, la première, c'est... qui se laisse pas faire, en fait. J'ai pris ça d'elle, en tout cas. Qui va parler quand il faut parler ou quand il faut pas parler, d'ailleurs. Qui va pas cesser faire. J'ai vraiment reçu ça d'elle. Et la seconde, c'est plus gérer une tempête maîtrisée. Faut pas l'énerver, quoi. Et elle va te montrer aussi qu'elle est là, quoi. On va dire, j'ai piqué un peu tous les traits de caractère de chaque personne avec qui j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Et ouais, ça a grave impacté sur mon caractère. Enfin, ma mère, elle travaille dans une auberge jeunesse qui est, enfin, à l'époque, ils en ont plusieurs dans Paris et il y en avait une vers le Louvre. Et du coup, il y avait pas mal de catalogues du Louvre ou des monuments à Paris. Et c'était des choses qu'elle me ramenait, en fait. Donc, toute petite, je feuilletais des catalogues du Louvre. Et comme elle a vu que j'aimais, elle se disait, t'inquiète, je t'en ramène et tout. Même des fois, elle en achetait pour moi. Ça a été la première à m'acheter des livres d'art, en fait. Et c'est vrai que vers l'âge de, je dirais, 11-12 ans, j'ai commencé à dessiner. Premier rêve, c'était de devenir styliste de mode. À regarder tous les défilés et à beaucoup dessiner, en fait. Beaucoup, beaucoup dessiner, mais c'était à base de... Je passais mes après-midi devant MTV en dessinant. ma mère, elle voyait ça, elle se disait, ça va lui passer, c'est sa passion. Du moment qu'elle reste à la maison, qu'elle fait pas de bêtises, elle dessine, c'est bien. Mais après, quand tu veux justement t'orienter vers... ce type d'études, là ça commence à coincer. Mais cela dit, voilà, quand je montrais mes dessins, ah oui, c'est bien, ça tu peux coudre, c'est très bien. Mes sœurs aussi, ah ouais, c'est super beau. Au collège aussi, ah ouais, tu peux me faire un dessin. Tout. Donc ça a été bien réceptionné jusqu'à cette action de vouloir concrétiser et d'annoncer, moi je veux faire un bac STI. C'est pas du tout passé. On va dire, j'ai essayé de le mettre de côté, mais ça revenait tout le temps, en fait. C'est comme l'écriture, enfin, j'ai toujours essayé d'enfouir justement ces sentiments et de me dire, non, je peux pas écrire ça alors que personne me voit, en fait, en train d'écrire. Et après, c'est ressorti à ce moment-là, en fait. Comme le théâtre, c'est quelque chose que je voulais faire depuis petite et c'est juste aujourd'hui que je me dis, pourquoi pas tester, pourquoi pas prendre des cours de théâtre ou... Parce que aussi, on a plein de choses enfouies au fond de soi-même et on se bride, on se dit, je peux pas faire ça et tout. Et arrivé à un moment donné, ça prend le dessus et on le fait, quoi. Je pense que ça vient en deux. Surtout ma mère, c'est plus... à l'époque, elle disait, j'aimerais bien faire popstar et tout. Non, tout le monde va voir à la télé, imagine que tu gagnes pas et tout. Non, la honte et tout. Donc, je pense que ça vient beaucoup, beaucoup d'eux. Ils sont pas allés au bout de leur... peut-être de leur ambition. Déjà, ma mère, elle voulait être couturière, avoir sa propre ligne, faire de la couture et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a pas concrétisé. Et mon père, je pense, il a été très longtemps chauffeur de taxi, mais je pense que il aurait aimé faire d'autres choses. Je passe mon bac, je rate la mention. et ensuite, je m'inscris en art plastique. Je cache ça, bien sûr. Jusqu'au moment où on me dit, tu fais quoi? Je suis en art plastique. En plus, je fais des cours du soir en couture. Donc au bout du compte, quand t'as des cours du soir, tu as des devoirs, entre guillemets, tu dois coudre et tout, etc. Et ma mère, elle me soutient parce qu'elle m'achète quand même ma première machine à coudre. elle le sait et tout, mais mon père, ça passe pas du tout, quoi. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Au lieu de t'inscrire en LEA, tu pourras voyager, toujours avec ces trucs bien, ces études bien concrètes, tu vois. Mais ma mère aussi, hein, parce que des fois, elle me disait, oui, tu pourrais être médecin, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et tout parent est comme ça. Ils veulent tracer toutes les lignes pour leurs enfants. Et bah si les enfants respectent, tant mieux. Et s'ils s'y sentent bien, s'ils se sentent bien sur cette voie-là, tant mieux. Mais c'est vrai que quand ça devient un combat pour imposer ce que t'as envie de faire, ça prend beaucoup d'énergie, en fait. Et il a fallu que je leur prouve, tu vois, en ayant des jobs où je me levais parfois à 5h du matin, je prenais les premiers métros. Enfin, c'est quoi, tu prouves à tes parents que de toutes les façons, tu t'es engagé sur cette voie et tu t'y tiendras. C'est là qu'après, ils commencent à te laisser un peu tranquille et ils se disent, bah ouais. Elle a pensé à pas mal de choses, donc ça passe, quoi. Mais ça a été... Ouais, il a fallu que j'impose certaines choses ou soit que je dise rien du tout. Et ensuite, donc, art plastique, des cours du soir en couture dans tous les sens. Mais cependant, j'essaie de les valider à chaque fois avec un CAP par-ci, la licence d'art plastique par-là. Et puis après, je me dis, pourquoi pas continuer avec des masters plus sérieux, entre guillemets, quoi. Donc un premier master en coopération artistique pour élaborer... C'est de la gestion de projet culturel, en gros. Hein. Et le deuxième, donc à la Sorbonne, là, on change du cadre de Paris 8. En coopération, mais plus centré sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc ça, c'est le deuxième master pro que je fais. Et après, à chaque fois, il y a des gros intervalles. Hein, où justement, je vais me reposer des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire sur le plan professionnel et tout. Mais j'ai toujours travaillé tout au long. Hein. Toujours eu des petits jobs à gauche, à droite. Donc dans un premier temps, c'était plus d'un point de vue extérieur où on me faisait comprendre que je m'étais peut-être engagée dans une voie qui n'était pas pour moi de par ma couleur de peau, en fait. Et de par mon origine sociale, entre guillemets. J'ai plus ressenti de manière extérieure, mais de la part de père, en fait, tu vois, de gens avec qui j'étais au collège. Ou... Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand j'allais voir une expo, on me regardait, enfin... Genre, pourquoi t'es là, en fait? Je me souviendrai toujours de ce... un vigile, voilà, qui travaille à Beauvau. Je rentrais au musée, par l'entrée du musée, et il me dit, ah, mais l'entrée de la bibliothèque, c'est de l'autre côté. Et je lui dis, mais... en fait, je vais voir une exposition. Enfin, je sais pas, j'ai ma carte d'adhérente, je vais voir une expo. Il a fait, ah, d'accord, je suis désolée, allez-y, et tout. Et tu vois, c'est avec des petits trucs comme ça, tu te dis, mais pourquoi, en fait, je serais pas légitime? On va dire que je me suis pas vraiment posé la question en tant que telle, mais c'était plus à travers des faits extérieurs, on va dire. De toutes les façons, je savais que je voulais être dans le domaine culturel artistique. Mais je me suis pas dit, oh, en tant que femme noire, française, comment ça va se passer dans ce milieu? Pour moi, je suis un être humain qui a des sensibilités et je veux trouver un job dans ces sphères-là, en fait. Je me suis pas du tout posé la question, j'envoyais mes CV normal. Enfin, jusqu'à l'âge de 25 ans, la question elle s'est pas posée, en fait. C'était pour. C'était chez Versailles. Ah, je peux te dire les marques?
Oui.
Ouais.
On peut pas l'entrer.
C'était chez Versace. Et en gros, ils recherchaient des stagiaires. Là, je viens pour un entretien. Donc, déjà, on me regarde des pieds à la tête. Je me dis, ok. J'ai un nom civil qui fait. On ne pense pas que c'est une jeune fille noire qui se cache derrière ce nom. Et elle arrive, ah, c'est vous et tout? Je fais, oui, c'est moi. D'accord. Entendu. D'accord, mais la dame est super étonnée, genre limite choquée, tu vois. Fait tomber dans les pommes. Et l'entretien, il a duré, même pas 5 minutes, quoi. Et c'est comme si, en fait, elle dégageait tout ce qui pouvait faire obstacle au fait qu'elle pouvait me prendre. C'est comme si elle les a énumérés, mais oui, mais de toutes les façons, vous n'avez pas de convention de stage, hein, alors que c'était quelque chose qu'on avait parlé au téléphone, et genre, on avait dit qu'on allait trouver une solution. Ouais. C'est bizarre, en fait, parce qu'au téléphone, il n'y avait pas de souci. Et finalement, face à face, on dirait que, genre, limite, ça va être la Troisième Guerre mondiale, tu vois. Et c'est des choses comme ça qui m'ont fait prendre conscience que, ouais, il y a peut-être un souci... De par ta couleur de peau, en fait. Mais je me suis pas posé la question en tant que telle, quoi. Et à l'âge de 25 ans, on va dire que j'ai rencontré un garçon qui était vachement conscient, conscientisé, et qui est noir aussi. Du coup, ça m'a donné des clés pour me comprendre en tant que femme noire. Et c'est justement le fait de pas être d'accord, de discuter sur pas mal de choses et de confronter nos idées, ouais, qui m'a poussée, en fait, à prendre conscience de tout cet écosystème dans lequel j'évolue, on va dire. Mais bien qu'avant aussi, un tout petit peu avant, à l'âge de 25 ans, j'avais fait un stage donc, chez un vrai manien, qui est un grand collectionneur d'art africain. Et on va dire que durant ce stage, bah, genre, tu te rends compte que, ouais, il y a des artistes partout sur tout le continent, enfin, il y a tous les noms qui te sautent aux yeux. Et je me suis dit, waouh, c'est le Euro Disney de l'art contemporain, en fait. J'étais trop contente d'avoir fait ce stage et d'en avoir rencontré certains aussi. Donc comme Chéri Samba, Romain Dazoumé, et de plus m'imprégner en fait de leur démarche artistique, de leurs œuvres. J'ai manipulé des négatifs de Manix Dibé, de O.J. Kéré, enfin pour moi ça a été une révélation aussi à travers l'art. Et forcément ça te pousse à te poser des questions sur toi-même en fait, par le biais de l'art en fait. Quand j'ai postulé pour ce stage-là, je revenais de Côte d'Ivoire. Donc on est en 2010, j'avais passé genre deux bonnes grosses semaines en Côte d'Ivoire. Et du coup, bah, je vois cette annonce. Je me dis, bah allez, c'est bon, on y va, je postule direct. Sachant que j'étais dans un autre stage qui me plaisait pas, donc c'était trop bien. Sachant qu'en plus, il y avait eu, non ça c'était l'année d'après, les problèmes en Côte d'Ivoire. Donc entre la France et la Côte d'Ivoire, c'était qu'en gros, bah, avec Gbagbo. En fait, Gbagbo a été élu, mais Ouattara a dit qu'il a été élu aussi. Gros souci, sachant que c'était une crise qui avait commencé 10 ans auparavant aussi. De prendre conscience qu'il y a eu, oui, une ingérence de la part de la France, tu dis, ah ouais, pourquoi ils font ça en Côte d'Ivoire en fait? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi il y a l'armée française qui tire sur des civils? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et au bout du compte, tu revois un peu ton statut de française d'origine ivoirienne. Tu te dis, bah ouais, je suis née en France, j'ai grandi en France, je connais la culture française. Enfin voilà, je kiffe Paris, c'est tous mes souvenirs ils sont ici, je kiffe la France. Enfin, d'un autre côté, tu te dis, pourquoi, d'un point de vue politique, pourquoi la France fait ça en Côte d'Ivoire? On va dire que déjà ça a été, ça a été une phase qui a fait que j'ai pris conscience de plein de choses. Pourquoi je vais vouloir me dire ivoirienne? Pourquoi je mets en avant aussi que je suis d'origine ivoirienne? Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, je kiffe la Côte d'Ivoire? Et tout ça, tu te poses plein de questions. Et qu'est-ce qui fait qu'aussi, ici à Paris, on me voit en tant que fille noire, en fait? Parce que la question de « vous venez d'où ?», on la pose beaucoup. Quand je vais mettre la personne mal à l'aise, je dis « je viens du 14e ». Et puis sinon, la plupart du temps, je fais « bah, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Comment ça ?» Mais cette question, au début, quand on me l'a posée, bah... Oui, je répondais, enfin, tu t'en fiches, oui, je suis d'origine ivoirienne et tout, mais... En fait, c'est de la part d'un Allemand. C'est un Allemand, une fois, il m'a posé cette question. Donc, ouais, j'ai quoi, 23, 24 ans. Il me fait, where do you come from? Et je fais, bah, France, Paris. I was born and raised here. Et après, il fait, genre comme s'il caresse sa peau, mais il fait, where do you come from? Et j'étais choquée. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a choquée. Et je lui ai répondu, ouais, du bout des lèvres, ouais, ma famille, elle vient un peu d'Ivoire et tout, mais je me suis dit, pourquoi il me pose cette question, en fait? Et pourquoi il est aussi insistant en touchant sa peau? Genre, en gros, t'es noire, donc c'est pas possible que tu viennes de France, de Paris. Bah déjà, ça a été ma première histoire, donc d'être en couple tout court. et d'être en couple avec lui, c'est révélateur d'un point de vue identitaire. Parce que ça a été l'une des personnes qui m'a dit, mais pourquoi tu fais des tissages et tout ça. Et tu dis, mais en gros, c'est pas ta tête, donc je fais ce que je veux en fait. Parce que mon père aussi ne arrêtait pas de nous dire ça. Ouais, pourquoi vous faites des tissages, patati patata, non. Et du coup, d'avoir ça d'un garçon que t'apprécies et tout, au début, je lui dis, mais ouais, c'est pas tes affaires, genre, laisse-moi tranquille. Et au fur et à mesure, je sais pas, un matin, je me suis levée, je devais aller me coiffer à Château d'Eau, et je me suis dit, mais imagine, on vend plus de tissage, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas gérer ta crise, tu vois? Et après, du coup, je me suis dit, faudrait que je me réconcilie, en fait. tu vois, avec mes cheveux, comment je peux en prendre soin. Et c'est vrai que dans cette veine-là, en 2011, il y avait beaucoup de vidéos, ça a commencé les vidéos en fait. Et beaucoup de youtubeuses ou de blogueuses qui montraient comment se coiffer. Il y avait le site que je suivais beaucoup, Black Girl with Long Hair. Et du coup, il y avait pas mal d'idées de coiffure, de choses comme ça. Donc, on va dire qu'à partir de là, j'ai commencé à me réconcilier avec la nature de mes cheveux. Ou si je faisais un tissage, ça m'arrivait, j'allais prendre en fait une texture qui ressemblait à mes cheveux pour qu'on dise « Ah, mais je croyais que c'était tes cheveux et tout !» Donc, plus les tissages longs pouces, tu vois, à la Pocahontas, bien que je critique pas les filles qui font ça, chacun son... J'ai des copines qui font des tissages et tout, moi je respecte leur choix. Je suis pas la fille « Ouais, non, mais pourquoi tu fais ça ?» Enfin, chaque femme fait ce qu'elle veut sur sa tête, en fait. Donc, et de fil en aiguille, je me coiffe comme ça. Maintenant, je fais des grosses vanilles et tout, je rajoute des rajouts, hein. Y a pas que mes cheveux. Parce que, en gros, je devais partir à Londres pour un mois et demi, 2 mois. Et je me suis dit, mais comment je vais me coiffer? Tu vois, j'étais un peu broken, j'ai pas de thune. Je me suis dit, je regardais la vidéo d'une youtubeuse qui faisait ces twists-là, on les appelle les Havana Twists. Si je dis pas de bêtises. C'est des grosses vanilles en fait. En fait, je les fais séparément. Et après, ouais, j'attache en chignon comme ça. Et du coup, il y avait cette youtubeuse qui faisait cette vidéo. J'étais là en train d'essayer de faire la même chose et tout. Et j'y arrivais pas, ça m'énervait. J'ai fermé mon Mac. Et j'ai fait, okay, maintenant tu fais ton propre style en fait. Sachant que c'était plus volumineux parce que j'avais mis plein de... j'avais pris au moins... Il y avait 4 paquets de mèches sur ma tête, en fait, c'était beaucoup plus volumineux. Et je me souviens, il y avait mon moniteur d'auto-école qui me dit « Ah, ta coupe et tout, on dirait un chapeau. » J'ai fait « Ok, d'accord. » Enfin, je vois pas c'est quoi le rapport, mais bon... Je me suis pas démontée, j'ai rien dit. Et bizarrement, c'est en allant à Londres, où tout le monde a fait « Wow, your hair amazing, bla bla bla. » Tout le monde a kiffé, en fait. Et même une fille dans le train, genre j'allais aux toilettes, elle m'a arrêtée, elle m'a fait « Genre... I love your hair. I love your hair. Take my number. Genre, prends mon numéro. Je veux que... » Elle fait « Qui t'a fait ça ?» Je fais « Bah, moi. Prends mon numéro. Je veux que tu me fasses la même chose et tout. » Et je me suis dit « Ah, mais en fait, je suis bien coiffée, en fait. » Parce que tout le monde me regardait bizarre et tout à Paris, mais... c'est bizarre comment... 3 heures, le restaurant, je m'en rappelle plus. En 3 heures, genre, comment la perception des choses peut changer, quoi. Et du coup, bah, à Londres, tout le monde a kiffé. Mais tout le monde a kiffé ma coiffure, tout le monde était « Ah non, mais c'est amazing, c'est trop bien, j'adore votre coiffure et tout. » Et au bout du coup, j'ai continué à me coiffer comme ça maintenant. C'est important d'avoir son opinion. Bah après, j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde a son opinion aujourd'hui. Quand on regarde les commentaires sur Facebook ou sur YouTube ou sur... Tout le monde a envie de partager son opinion. Il y a en tout cas un poids de la société qui te fait comprendre que si justement t'as pas cette opinion à partager, t'es passif en fait. T'es passif, tu te poses pas de questions, etc. Donc, ouais, c'est important d'avoir une opinion, on va dire, juste de l'actualité. Enfin, après, tout n'est pas peut-être bon à partager et d'être à l'écoute aussi des autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. En tant que femme noire, dans cette société française, on a toutes des choses à dire. On a toutes vécu des choses. Enfin, le film d'Amandine Gay, ça le démontre bien. Je me dis que c'est important pour les générations futures. Qu'est-ce que les autres ont envie d'entendre de la vie de chacun, en fait? Moi, je te disais qu'au début, j'avais pas forcément envie d'écrire, j'avais pas envie de mettre ça sur papier. Tu vois, est-ce que c'était intéressant ou pas? Et j'ai qu'une fois, il y a une dame, je suis en train de faire lire ça à une copine dans le métro, et elle a tendu, elle a regardé tout par-dessus nos épaules, et elle a dit, mais waouh, c'est trop intéressant ce que vous écrivez, j'adore cette rime et tout. C'est plus cette question-là, ouais, comment t'intéresses les gens, en fait, à tout ce que tu vis, à tout ce qui boue en toi. De quelle manière, en fait, tu le fais ressortir de toi et comment t'intéresses les gens? Bah, tu testes un petit peu, tu testes avec ce premier texte. À l'école de la vie, assise au dernier rang, je vois mon rêve écrit au tableau. Avec des fautes d'orthographe, mais non sans gaffe. Or, l'éponge trempée dans le seau d'eau vient tout mouiller et noyer ma volonté. je crie, j'injurie, l'effaceur qui a effacé mon vœu, mon souhait, et même sous les disputes de l'institut heure de rêve, mon espoir ne faiblit ni ne s'éteint. C'est un court texte.
Et c'était quoi ton rêve ?
À ce moment-là, mon rêve, c'était plus de marquer les esprits, en fait. Marquer les esprits avec mes textes, avec... Il y a une phase aussi où je me voyais en tant qu'artiste. Hein. Donc, c'était plus à comment impacter sur l'esprit des gens. Genre, limite, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que les gens, ils parleront de toi, tu vois ? Je savais pas la forme, mais c'était plus ça. Après, si c'est une nécessité pour toi, je pense que tu peux trouver une audience qui va s'intéresser à ça. C'est même avec la Neurobox, je me dis, la Neurobox, c'est les coffrets culturels que j'ai lancés depuis 2016, où je fais une sélection de livres, de DVD, de musique. Et je me dis justement, moi, ça va me plaire, mais comment je vais trouver des clients à qui ça va plaire, en fait ?
Il y a deux fois où t'as ri quand t'as dit « J'étais enfant, je vais être artiste de mode. »
Ouais.
Et là, tu t'as dit « Je me voyais encore artiste.
Mm. »
Et tu t'es moqué de toi.
Ouais.
Pourquoi tu te moques de toi ?
Parce que... peut-être un peu moins pour styliste de mode, mais plus pour artiste parce que je vois toujours la tête de mes parents, genre en mode « Papa, maman, vous venez à mon exposition. » Non, mais... ils auraient... Ouais, pété un câble. Mais déjà, art plastique, ça a été... Comme t'imagines, votre fille a fait quoi ? Elle est en art plastique, ça passait pas pour... Ah ouais, ça passait pas du tout.
C'était pas le métier... C'était pas médecin, c'était pas avocat, c'était un métier trop créatif ?
Ouais, et puis... ouais, pas sérieux, et surtout... dans quoi elle s'engage, elle va galérer... Faut qu'elle ait cette roue de secours super solide, super sûre. Et même pendant tout un été, j'étais partie en Côte d'Ivoire, je sais pas, je devais avoir 17-18 ans. Et j'avais ma tante, tous les jours, elle me disait... C'était avant que je rentre en art plastique, et elle me disait, mais tu peux pas faire ça, faut que tu fasses un autre métier, c'est une passion. Donc faut qu'en gros, tu sois, je sais pas, moi, avocate, médecin à côté. Et après, t'as ta passion art plastique, tu vois. Et elle m'avait même emmenée chez la fille d'une amie à elle qui faisait des chapeaux. Mais à côté, elle était, je crois, avocate ou dentiste, je sais plus. Et quand tous les jours, c'était ça, je me disais, putain, j'en peux plus. Et en fait, c'était ma mère qui lui avait dit de me parler, tu vois.
Et aujourd'hui, tu fais quoi ?
Aujourd'hui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers la commercialisation donc, de coffrets culturels. Mais inspiré des cultures noires. D'un point de vue marketing, on m'a souvent dit, ouais, mais culture noire, ça passe pas, quoi. Je trouvais que c'était plus juste dans le sens où j'allais pas évoquer que l'Afrique dans ce coffret et c'était plus des interactions, comme par exemple des musiciens maliens qui sont partis à Cuba, qui chantent en bambara, qui chantent en espagnol, qui chantent en anglais. C'est plus ce brassage-là, comment il s'est fait, toutes ces histoires qui m'intéressaient en fait, au lieu juste de, même si l'Afrique c'est super grand, il y a de quoi faire en fait, du nord, l'est, au sud, l'ouest, enfin c'est... C'est un continent super riche. Mais c'était plus ces histoires-là qui m'intéressaient, en fait. Je sais pas, une Maya Angelou qui a vécu en Afrique, une Nina Simone qui a vécu aussi en Afrique de l'Ouest, qui voulait plus repartir. C'est plus ces mobilités-là et ces échanges-là qui m'intéressaient, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu parler de culture noire et pas de culture africaine. C'est plus ces gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est une boxe africaine, en fait. Hein. C'est culture africaine, je fais... » Oui, c'est pas faux que la neurobox, c'est les cultures africaines qui priment. Et c'est vrai que par exemple, je sais pas, il y a eu toute une flopée de cinéastes ouest-africains qui ont fait leurs études en Russie. Comment ça a impacté sur leur vie quand ils sont rentrés dans leur pays ? Comment eux, ils ont impacté la vie des Russes ? Et même les communautés africaines qui vivent aujourd'hui en Chine ou en Israël, comment elles vivent aujourd'hui ? Comment elles se sentent d'un point de vue identitaire dans ces différentes sociétés ? Et c'est ça qui va m'intéresser, et c'est pour ça que j'ai voulu élargir en parlant de culture noire, en fait.
Quel est ton processus, justement, pour les faire, ces boîtes, ça ?
J'ai un blog depuis maintenant 2011. Et ce blog, en fait, je l'ai lancé parce qu'à la base, c'était après mon stage chez André Magnin. Et justement, il y avait un artiste ivoirien qui m'avait envoyé, en fait, ses œuvres et tout, et je savais pas trop comment l'aider, en fait. Et à l'époque, André Magnin aussi, il a vu son travail, mais voilà, il ne savait pas non plus comment aider. Et je me suis dit, comment moi, à mon échelle, je pourrais faire, en fait. Enfin, j'aime bien écrire, j'aime bien l'art, donc c'est pour ça que j'ai couplé les deux. Au tout début, Africanix, je le voyais vraiment comme une galerie en ligne. Tu vois, limite, les artistes, j'expose leurs œuvres, on les achète et tout, je le voyais vraiment comme ça. Et de fil en aiguille, ben, j'avais pas les contacts nécessaires, donc ça s'est transformé en blog personnel. Et voilà, j'allais voir une expo, j'écrivais dessus, je faisais des interviews d'artistes. Ça a vraiment commencé petit à petit comme ça, en fait. Et j'ai fait pas mal de jeux concours, des partenariats avec des musées. Et en 2014, dans ces eaux-là, il y avait des box pour tout. Hein. Il y avait les box beauté qui battaient leur plein, Birchbox et tout. Et j'ai fait un peu des recherches, il y avait quelques box culturelles qui existaient. Mais il n'y avait rien sur la niche... J'irai culture africaine, culture noire. Et c'est comme ça que l'idée est venue depuis 2014-2015. Et j'ai lancé la première en 2016.
Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est que ça décloisonne aussi les cultures noires. Mmh. C'est très international finalement. Mmh. Et ça crée un peu une forme de ciment dans toute la diaspora en fait. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on manque de choses en commun? Non, au niveau de la diaspora.
Il y a eu des clivages, hein. Tu vois, de par exemple, les différentes communautés ouest-africaines et les Antillais, par exemple. Tu vois. Il y a eu pas mal de clivages, alors qu'il y a eu des histoires communes. Tu vois, Césaire, quand il parle, ça a retenti dans toute l'Afrique, il y a eu le mouvement de la négritude. Bah, t'imagines si Senghor et Césaire avaient dit « Ah bah non, on se parle pas parce que toi, t'es sénégalais et toi, t'es Antillais. » Donc, non, on se parle pas, en fait. Et justement, eux aussi, ils ont fusionné tout ça. Et le dénominateur commun, c'était la couleur de peau, au bout du compte. Pour en faire une force. Non pas pour se victimiser, on est noir, il nous arrivait plein de trucs comme ça. Mais non, on va valoriser notre histoire, on va valoriser notre culture. Et mutualiser pour ensuite plus parler au cas par cas, tu vois. Je dirais. Tu vois, dans la box, c'est comme si tu mets plein de choses, tu secoues et tout, mais après, au bout du compte, il y a...
saveurs qui ressortent.
Ouais, exactement. Tu vois, exactement.
Les singularités.
Ouais, voilà, exactement. Les singularités, une singularité malgache, une singularité wolof, une singularité bambara, une singularité... c'est plus ça. Ok, d'accord, il y a une couleur noire, mais il y a une histoire aussi.
Oui, c'est les cultures noires.
Exactement.
So why did he need a black director? Could a white director not have?
It's not color. It's culture.
Explain the difference, because I think we're in a space.
Steven Spielberg
right now.
Did Schindler's List.
Mm-hmm.
Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but they're cultural differences, you know. I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, mm-hmm. what it smells like.
Huh?
That's a cultural difference, not just a color difference.
All right.
So it's the culture.
Qu'est-ce que tu entends quand on parle d'art africain?
Ouais. J'avais écrit un texte à l'époque sur mon blog en disant que est-ce que c'est juste de parler d'art contemporain africain en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et de par le temps, je me suis dit, bah, c'est peut-être un label, en fait, au bout du compte, qui s'est développé et qui va peut-être rassurer d'un point de vue institutionnel, voilà, un grand tiroir dans lequel on va mettre plein de choses. Et il y avait pas mal d'artistes, justement, qui disaient, bah non, je veux pas qu'on me mette cette cascalade d'artistes africains, moi je suis artiste et puis c'est tout. J'avais rencontré pas mal d'artistes comme ça. Et bah après, comme ça a bien pris, ces mêmes artistes-là ont fait un peu profil bas et sont rentrés dans ce grand tiroir. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, art contemporain africain? Sachant que l'art contemporain, sa définition en tant que telle, c'est l'art après 1945. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de pays africains, notamment, qui sont pas du tout indépendants, en fait. Qui sont encore... colonisés. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, art contemporain africain? C'est peut-être un peu paradoxal. Est-ce qu'il suffit d'être noir pour être catalogué artiste africain? Parce que, je sais pas, il y a des artistes en Afrique du Sud, ils sont blancs. Et quel statut ils ont plutôt? Et pareil, un artiste, enfin, un chinois qui est né, je sais pas, au Zimbabwe, qui a grandi au Zimbabwe, qui s'est imprégné de la culture zimbabwéenne, qui devient artiste, donc on le met dans quelle case ? Artiste chinois ou artiste africain ? Donc, et puis même le terme artiste européen, il n'est pas vraiment beaucoup utilisé. Bah, artiste américain, oui, parce que voilà, les États-Unis et tout, mais ouais, c'est... ça m'a beaucoup questionné en fait, ce terme art contemporain africain. Je pense qu'il est... il est nécessaire de le déconstruire pour mieux le reconstruire en fait. Je trouve que c'est important.
Est-ce qu'il y a, une, il y a de plus en plus d'artistes féminines africaines ou d'origine africaine?
Bah, je dirais qu'avec les réseaux sociaux, déjà ça a permis à différents artistes, hein, que ce soit partout dans le monde entier, hein, que ce soit même en Europe ou en Afrique, ça leur a permis en fait d'avoir une visibilité. Et notamment aussi aux artistes femmes qui sont pas forcément sélectionnées pour faire partie de des expositions. Il y a ce sentiment en fait de respecter une certaine parité, et bah dans une expo, ouais, quand tu vois que il y a, je sais pas, allez, 16 artistes, il y a que 4 femmes, bah maintenant ça fait poser des questions, quoi. Donc il y a ce souci là de rééquilibrer un peu les choses, de se dire, ah bah ouais, peut-être que aussi dans nos artistes, bah il y a que des Européens, quoi, donc on va aller chercher un peu ailleurs.
En parlant d'équilibrer les choses, est-ce que dans le la création de ton entreprise en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu te sens minoritaire? Est-ce que tu as l'impression de correspondre à l'image qu'on se fait de la Startup Nation?
Ah,
ce rêve fabuleux.
Ouais, pas du tout, pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé, j'avais l'impression qu'on ne me respectait pas, en fait, en tant que, qu'entrepreneuse, entrepreneur, entrepreneuse. Et que, enfin, des fois, quand j'allais contacter des, je sais pas, des sous-traitants ou pour acheter des choses, c'était un peu, ouais, bah, on prend la légère, en fait. Genre, t'es pas du tout en train de créer un business. Genre, oui, bah ouais, ce sera livré dans 14 jours. Bah non, moi, j'en ai besoin demain, en fait. Comment on fait? Quelle solution? Même quand tu vas demander des rabais, etc., bah non, t'as l'impression d'être, de passer un peu pour la... excusez-moi du terme, de la chuse de service, en fait. Bah non, j'essaie juste de faire un business et j'essaie de rentrer dans ma rentabilité, en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup ressenti ça au début. Bon, maintenant, un peu moins parce que je veux pas faire attention à tout ça, mais... ouais, c'était plus, je sais pas, pour acheter, par exemple, les packaging, les box. Ah bah non, je peux pas le plier, mais là, vous voyez un peu comment ça donne. Non, je vois pas comment ça donne, j'ai besoin que vous le pliez pour que je vois, en fait. Donc, oui, bah, vous mesurez et tout. Non, je ne mesure pas. Vous pliez la boîte et je...
C'est votre job.
Non, mais c'est ça. Mais par contre, quand il faut allonger l'argent pour les factures, il n'y a pas de problème. Après, c'était peut-être aussi parce que je commençais. Et c'est comment, moi, je me voyais aussi. Ça transpirait que, voilà, je commençais et tout. Et peut-être ça transpirait tellement que les personnes en face de moi, elles disaient, bah, va pas nous saouler si elle reçoit ça avec 2 jours de retard ou pas. Alors que non, ça avait une importance pour moi, en fait. Ou même s'il y a un retard, bah, vous devez m'en avertir. Ou... je pense qu'il y a une part de comment on se voit et comment ça impacte les autres. Et après, t'as une autre part de stéréotype.
Et qu'est-ce qui t'aide à garder le cap?
Bah, déjà, je me dis que un non cache toujours un oui. Que les personnes qui vont dire, bah non, c'est pas possible. Si tu reviens dans quelques temps, elles vont dire, ah mais oui, mais il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Je me dis ça et après je me dis qu'il n'y a pas d'échec en fait. Enfin, ce mot échec, je pense qu'il faut un peu le gommer et il n'y a que des expériences en fait, satisfaisantes ou non. Et justement, si y a une expérience non satisfaisante qui t'arrive, bah, déjà pose-toi la question pourquoi ça t'est arrivé et après qu'est-ce que tu en tires. L'entrepreneuriat, je le vois plus comme un passage en fait, comme un long tunnel que je suis en train de traverser et qui impacte beaucoup ma personnalité. Je vois pas comme le truc, allez, c'est bon, je veux faire des millions en mode start-up américaine, je fais une levée de fonds à 100 millions. On va dire qu'aujourd'hui, je vais accorder plus d'importance mais à des trucs, mais enfin, genre, les gens vont me dire, mais t'es folle ou quoi. Je sais pas, c'est par exemple le gars de la poste qui m'encourage, qui me dit, mais alors, allez, aujourd'hui, on envoie combien de box, qui est grave à fond derrière mon projet, ou encore je vais aller récupérer, je sais pas, des DVD, tu vois que le gars il est là, il t'écoute, il t'encourage, il te montre plein de références. Ou même là dernièrement c'était une dame qui travaillait dans une maison d'édition et qui était trop à fond dedans, qui m'a grave encouragée. C'est plus des choses comme ça et Et en fait aussi de voir comment ma structure de pensée elle change justement pour attirer les bonnes choses à moi. Je le vois plus comme un passage en fait. Que le truc, bien sûr on a besoin d'argent pour vivre, bien sûr faut que je calcule ma rentabilité, bien sûr faut que je discute les prix. Mais on va dire que je me suis engagée dans cette voie-là un peu pour me forger, pour me redécouvrir moi-même. Comment tu te rends compte que ta vie intime, au bout du compte, elle impacte aussi sur ta vie professionnelle et comment tu crées tes propres valeurs, en fait, au bout du compte. C'est comment t'équilibres ta vie, en fait. Tu m'as promis le paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi, j'aurais fait des folies, j'aurais piloté sans casque. Paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi, j'aurais fait des folies.
À travers ton goût pour l'art et la culture, tu sens aussi une forme de goût pour la spiritualité.
C'est vrai que c'est très important, la spiritualité. La religion aussi, c'est ce qui m'apporte un équilibre. Enfin, depuis toute petite, hein, d'ailleurs. Et c'était un peu comme la baguette au-dessus de la tête. Hein, si tu fais pas les bonnes choses, c'est pas bien et tout. Mais ouais, ça a eu beaucoup d'importance. Et on va dire qu'aujourd'hui, j'ai acquis une certaine autonomie, en fait, par rapport à ça, tu vois. On va pas aller à l'église en famille. C'est plus pour moi, en fait, pour me ressourcer, pour... Toi, ça va être un temps, je vais vraiment écouter ce que le prêtre dit. Parce qu'avant, t'es là et tout. Là, j'écoute réellement. Et en gros, c'est qu'est-ce que tu vas pas trouver dans les livres d'entrepreneuriat. Tu vas écouter un prêche à l'église. Et ça va t'impacter, tu vas dire ah ouais. Et ça va t'inspirer aussi. Et il y a un livre d'ailleurs, c'est L'Alchimiste. Mais pour moi, L'Alchimiste, c'est la Bible des entrepreneurs en fait. C'est comment tu vas croire en ton rêve, comment tu vas.
De Paulo Coelho.
Exactement. Et pour moi, j'ai beaucoup lu ce livre. Depuis l'âge de 14 ans, je l'ai lu. J'étais trop contente parce que c'est le seul livre que j'ai lu en une journée. Et là, dernièrement, je l'ai relu et j'ai mis plus longtemps, j'ai mis 2 mois. Parce que je décortiquais tous les passages, en fait. Et je me disais, mais c'est trop la guideline pour les entrepreneurs, en fait. Enfin, pour toute personne qui veut, réaliser... Ouais, tout simplement réaliser son rêve. Donc.
Est-ce que la religion, c'est aussi une guideline pour ta vie?
Moi, j'y dirais oui. Et aussi pour mon comportement au quotidien avec les autres. C'est-à-dire les phrases basiques, ouais, faut pardonner, tu vois, des trucs comme ça. Et aussi qui va beaucoup aider pour le lâcher prise, je trouve. Donc c'est bon, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu fais après en fait? Comment tu passes outre ça? Comment tu pardonnes? Tu vois, au moment des fêtes de fin d'année, on dit tous oui à Noël, allez, on laisse tout ce qu'on t'a fait, tu mets de côté, tu pardonnes à tout le monde. Tout le monde dit il est beau, tout le monde s'embrasse, on est dans le monde des bisounours. Et c'est vrai que c'est important parce qu'au bout du compte, aujourd'hui je m'embrouille avec quelqu'un, mais quand on aura 70 ans, on va se recroiser. C'est bon, c'est oublié en fait. Tu vois, donc, je dirais que la religion, c'est ton devoir de catholique. Tu vas prier, tu vas respecter ce qui est écrit. Je dirais que c'est ça, c'est plus dans la. Dans la forme, on va dire. Et que la spiritualité, pour moi, c'est commun à tout le monde. Tout le monde a une part de spiritualité en lui. Et là, c'est plus dans le fond, en fait. Et la spiritualité, je vois comme... Vous allez me prendre pour une fan, mais... En gros, on a tellement la chance de se réveiller. Tu sais, je sais pas, on se réveille en bonne santé, on se réveille bien. Tu sais, je sais pas, on a de l'eau. Enfin, c'est un truc de ouf, quand même. Je sais pas, tu peux ouvrir le robinet, t'as de l'eau. La spiritualité, je le vois comme se satisfaire de tout ce qu'on a au quotidien. On se rend même pas compte de la chance inouïe qu'on a de marcher sur nos deux jambes, de parler, d'entendre, de... Mais rien que, tu vois, de voir la lumière du jour, du soleil, enfin... Vraiment se satisfaire de ça au quotidien, en fait.
C'est la reconnaissance, la gratitude.
Ouais, la reconnaissance, la gratitude, et puis... comment tu fais partie de l'univers, en fait. C'est quoi ta place dans l'univers? Enfin, l'univers, il est tellement immense. Enfin, déjà, tu regardes le ciel, tu regardes les nuages. Toi, t'es toute petite et du coup, c'est quoi ta mission? Tu vois? Je sais pas, les fourmis, elles ont une mission. Les abeilles, elles ont une mission. Et du coup, c'est quoi la tienne? Et La spiritualité, moi, je le vois plus comme ça. Comment comprendre le fonctionnement de l'univers, comment faire partie de l'univers, en fait, tout en le respectant et tout en étant un bon élément.
Justement, en parlant de spiritualité, est-ce que tu dirais que tes parents sont croyants, mm-hmm. tous les deux ? Est-ce qu'ils avaient un rapport à la tradition, aux traditions africaines, plus spécifiquement ivoiriennes ?
Mm-hmm. Ouais, c'est la tradition à Caen. Du coup, moi, je suis à Caen. Enfin, je fais partie du... En fait, je suis Enzima. Enzima, on nous appelle aussi les Apolloniens. La référence pour ceux qui connaissent un chanteur, Mewé, ivoirien. Et du coup, ouais, ma mère, tu sais, c'était par exemple, il y a beaucoup de trucs comme ça, genre, ah mais non, mais tu peux pas faire ça, parce que sinon, t'auras pas d'argent, genre, mets pas ton sac par terre, tu vois, des trucs comme ça. Ou, ne coupe pas tes ongles la nuit. Ou, il y a tellement de phrases comme ça.
Pourquoi pas couper ses ongles la nuit ?
Parce qu'apparemment, moi c'est ce qu'on m'a dit, après je sais pas, des gens ont différentes versions, parce qu'il y a un monsieur, il avait coupé ses ongles la nuit, et il les a, bah, après il a balayé, il a jeté, et en fait il avait un sac où il y avait de l'argent, et il y avait le sac des ordures, et du coup le lendemain, il s'est trompé de sac, enfin sa femme s'est trompée de sac, et elle a jeté le sac où il y avait de l'argent. Donc du coup, en gros, on dit que si tu te coupes les ongles la nuit, et eh bah, ben, tu n'auras pas d'argent.
Bah, ils peuvent pas se dire si tu coupes les ongles la nuit, que toi-même la poubelle. Laisse ta femme le faire.
Ouais, je sais pas.
Et justement, parlant de religion, est-ce que tu comprends ou toi-même tu as déjà émis une critique par rapport à la religion ou une autocritique par rapport à des pratiques, ce genre de choses?
Non, pas vraiment, parce que je me dis que chacun vit sa religion au degré qu'il veut. C'est un peu comme les coiffures, en fait. La comparaison, elle est...
Non, je trouve ça parfait.
Mais je me dis... Je vois...
Si tu veux de sa tête.
C'est ça.
Mais je me dis, je vais pas juger une fille parce qu'elle se défrise les cheveux, ou la juger parce qu'elle a fait un tissage, ou juger quelqu'un qui va à la messe tous les jours. Don't touch my hair. When is the feeling? Where don't touch my soul. When it's a rhythm, I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there.
Et est-ce que c'était aussi une manière de compenser l'absence de quelqu'un ?
Oui, ouais, j'ai souffert de l'absence de mon père. Parce qu'en fait, il était très présent, mais je vivais pas avec lui. Tu sais, ça m'avait révolté, en fait. Parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Pourquoi il était pas là ? Qu'est-ce qui se passait et tout ? Et que quand je le voyais, bah, c'était pour me dire non, tu fais pas ça. Non, tu vas pas en STI. Non, tu vas pas dans ce manchin.
Calme-toi sur le mascara.
Oui, voilà. Et au bout du compte, au quotidien, j'avais pas ce père. Je sais pas, mais un truc tout con. Enfin, aller manger avec lui ou aller boire un café. J'avais pas ces moments-là, en fait. J'ai pas partagé ces moments-là, alors qu'il m'a... Il a essayé de me brimer sur pas mal de choses. Me contrôler, entre guillemets, sur pas mal de choses. Et tu sais, aujourd'hui, tu me demandes la couleur préférée de mon père. Je sais même pas c'est quoi, en fait. Je sais même pas c'est quoi son plat préféré. Je vous avais dit au début, je peux même pas dire c'est quoi son rêve, en fait. Parce que j'ai pas ces échanges-là, j'ai pas ces discussions-là avec lui. C'est vrai que dernièrement, on a beaucoup parlé de son enfance. Ça m'a grave aidé à comprendre des choses. Mais il y a encore des zones d'ombre. Et oui, j'en ai souffert parce que tu te dis, c'est ton père. Et au bout du compte, tu connais pas grand-chose de lui, en fait. Ouais, j'en ai un peu souffert. Je sais pas, moi je vois des copines, elles sont là. Ouais, avec mon père, on va à un spectacle. Avec mon père, on va avoir une expo. Je me dis, c'est beau, tu vois. Et c'est ce que je veux pour mes enfants. Surtout si j'ai une fille, je veux qu'elle soit comme ça avec son père, en fait. Et qu'elle ait tous ces moments que moi, j'ai pas eu. Enfin, je veux trop qu'elle ait... En plus, une relation père-fille, je sais pas, c'est... Tu sais, ton père, c'est le premier homme que tu...
Que t'aimes.
Ouais, que t'aimes, en fait. Toi, t'es amoureuse de ton père au début, tu vois.
Et t'as pu lui dire ça ?
Ouais, là je suis pas rentrée dans toute mon autobiographie, mais il y a eu des grosses crises et tout. Et c'est vrai, je sais que genre demain, je vais pas bien. Enfin, j'appelle mon père en pleurant au téléphone, il va décrocher, il va toujours avoir les bons mots. On a une relation forte, mais en même temps, on n'est pas là au quotidien à se raconter nos vies, en fait, on va dire.
Et maintenant, quelle femme tu es?
Tu sais, j'ai la chanson des S5 qui vient à l'esprit.
Toutes les femmes de ta vie. En moi réunies.
Bah, je pense que je suis... C'est ce truc aussi de se voir plus comme une jeune fille ou plus comme une jeune femme et de se dire, ah non, c'est bon, là, c'est bon, t'as l'âge, quoi. C'est bon, la pomme, elle est mûre. Elle est tombée au sol. T'es une femme. Bah, je pense que... En tout cas, j'essaie d'être une femme avec des valeurs, d'être une femme qui concrétise ses ambitions. Bah, il y a des gens qui disent que, ouais, t'es pas une femme réalisée quand t'as pas eu d'enfant, tout ça et tout, mais... Et du coup, bah ouais, aujourd'hui j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Avant même de parler de femme, je parlerais plus d'être humain. Je me vois plus comme ouais, un être qui essaie de s'accomplir en fait.
T'as la peau très foncée. Mm-hmm. Et est-ce que c'est quelque chose dont t'as souffert ou que t'as voulu changer au cours de ta vie ou qu'on t'a incité à changer?
Ah, énormément. Surtout au collège, même si c'était les bonnes années et tout, ouais. Ouais. Quand même, je me souviendrai d'une connaissance copine qui m'avait dit « Ouais, si t'étais plus carré de peau, tu serais plus jolie. » Et c'est vrai que quand t'entends ça à 12-13 ans, tu vois, ça a un impact sur toi. Tu dis « Ah ben... » Même si je sais pas, des garçons qui te regardent pas parce que justement, t'es, entre guillemets, foncé, quoi. Et justement, quand cette copine elle m'avait dit ça, j'avais dit ça à ma sœur, elle m'a fait « C'est ta copine en plus. Tu la considères comme ta copine alors qu'elle te dit ça, tu vois. » Donc ça te fait réfléchir en fait. Tu dis que personne n'est en mesure ou n'a le droit de te faire une réflexion sur ta couleur de peau. Et même quand je vais au Côte d'Ivoire, tu vois, on me fait des réflexions. On me dit ah oui, elle est foncée, la fille foncée là. Et quand on va parler d'une blanche, on va pas dire la blanche pâle ou la blanche mate de peau. Ou... On dit voilà, la fille brune, la rousse, la blonde, etc. Et quand c'est noir, automatiquement on va dire la claire de peau ou la foncée ou la... Pourquoi en fait? Pourquoi s'imposer ça en fait au bout du compte? Parce qu'aujourd'hui, moi j'en parle normal, enfin je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche éperdument. Mais c'est vrai qu'avant, ouais, t'en souffres et tu te dis pourquoi on te rejette à cause de ta couleur de peau. Et c'est comment en fait t'en fais une force? Tu vois, justement, quand je disais que j'achetais beaucoup les magazines girls de l'époque. Et qu'il y avait les conseils de Kadi Sibizé, bah, tu vois, j'ai appris à prendre soin de ma peau très jeune, donc à l'âge de 14 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'éclaircir la peau, je vais pas m'attraper un cancer de je sais pas quoi avec tout ce qui m'a dedans. Donc je vais en prendre soin en fait. Et aussi, comment la mettre en valeur? Bah ouais, je vais pas m'habiller en noir des pieds à la tête, je vais mettre des couleurs vives, je vais mettre du jaune, enfin plein de couleurs. Comment tu regardes que le côté positif en fait, des choses. Et après, à partir de là, bah ouais, t'inquiète pas que les remarques, elles s'évanouissent, quoi. Plus personne te fait de remarques et tout. C'est comme ça, ah, t'es belle, taillée dans les bennes, patati tatata. Mais c'est ce que j'avais dit un petit peu à un moment, c'est comment ton estime de toi, elle va transpirer pour que les autres ne soient pas en mesure de te faire des réflexions stupides, en fait.
Tes relations sentimentales n'ont pas beaucoup joué sur ta construction en tant que personne?
Je dirais que c'est plus ma recherche de petits copains, de relations. Tu vois, quand j'étais adolescente, je me disais « Ah, est-ce que je vais avoir un petit copain? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là ?» Et pendant toute l'adolescence, j'étais toute seule en fait. Tu vois, j'avais pas de copain, j'avais pas de petite amie et tout. Et en gros, je dirais ouais, c'est cette recherche-là aussi du gars idéal en fait. Parce que le schéma que j'avais à la maison, c'était « Ouais, tu trouves un gars, tu te maries avec lui. » C'était pas, il y avait pas le modèle à la Carrie Bradshaw, tu vois, ou...
Tu testes. Jusqu'à trouver le bon.
Ou tu testes, mais aussi où tu vas t'épanouir dans une relation, tu vois. Et puis ce côté un peu tabou, même de par certaines copines, tu vois, que j'avais au collège, on parlait pas de ça, tu vois. Et c'est vrai que ça, j'ai appris, non pas appris, mais j'ai découvert un peu toute seule. À partir de l'âge de 25 ans où j'ai eu cette première relation avec mon ex-copain. et au bout du compte, au lieu de rechercher genre un copain et tout pour te balader dans les rues de Paname avec lui, ben non, tu recherches une relation où déjà tu vas être toi-même, où tu vas être accepté avec ta couleur de peau, avec tes cheveux, avec ton ambition, avec tes rêves. Et comment justement vous avez trouvé des points d'ancrage en fait entre vos deux personnalités, cette symbiose avec quelqu'un d'autre, au bout du compte que je recherche depuis que je suis adolescente, plus cette symbiose-là à travers une relation et qui va, ouais, tu vas devenir encore plus toi-même et je me dis pas, ouais, tous les jours je suis célibataire, tu vois, faut que je rencontre quelqu'un, alors que les gens, tu vois, c'est, ça vient encore plus de l'extérieur. Ah non, mais t'es toute seule, mais comment ça se fait, mais patati, mais patata. Alors que, oui, je ressens besoin. Oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un et tout, mais comment tu... Qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un si t'as pas résolu tes problèmes avec toi-même, en fait? Si t'es pas satisfaite de ton quotidien, si tu continues à être critiquée, si... qu'est-ce que tu vas apporter à quelqu'un d'autre, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que mes relations auparavant, elles se sont pas... c'était pas des relations ouf. Ou qui se sont terminées un peu de la même manière. Parce que, tu vois, tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que c'est toujours le même schéma? Pour que ça se termine comme ça, ça veut dire que je dois chercher à l'intérieur de moi-même. Qu'est-ce qui cause ça, en fait? Donc c'est plus ça. Je me dis, ben, je rencontrerai cette personne quand j'aurai ouais, résolu, entre guillemets, hein, ce qui va pas chez moi. En tout cas, ce qui me pose problème à moi-même.
Quand est-ce que tu te sens minoritaire?
Bah, au début, je me sentais minoritaire de par ma couleur de peau. Minoritaire après par rapport à la filière que j'avais choisie aussi, le milieu. Mais aujourd'hui, on va dire, si je me sens minoritaire, peut-être par rapport aux valeurs que je veux défendre. Et peut-être aussi parce que je vote pas sur le même courant de pensée que certaines personnes. Même si ma couleur de peau et mon genre... Le fait d'être femme, le fait d'être femme noire, va laisser croire que je pense de cette manière-là, alors que pas du tout, en fait. Et ça va être là où je me sens minoritaire, par rapport aux idées et par rapport aux valeurs.
Tu t'es déjà sentie majoritaire?
Ouais, quand tu participes à un événement où, par exemple, il n'y a que des femmes, pour les femmes, tu vois, tu te sens majoritaire. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes noires. Mais tu te sens majoritaire, tu vois, de par le genre, on va dire. Et après, quand il y a des événements, bah... dédié aux femmes noires, ouais, tu te sens majoritaire.
Et ça fait quoi?
Ça donne de la force, en fait, de pouvoir échanger avec des personnes qui te comprennent, en fait, au bout du compte. T'as pas besoin d'expliquer 15 000 trucs. Que oui, enfin, t'as pas de honte, le harcèlement dans la rue, parce que voilà, t'as porté une petite jupe, on t'a traité et tout. Un homme va le comprendre, mais on va dire que le partage d'expérience n'est pas le même. Majoritaire, à ce moment-là.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.